Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, y a-t-il une tyrannie de l'innovation ? Vous avez un chien ou un chat, il est à la maison tandis que vous, vous êtes au travail. C'est l'angoisse, et s'il lui arrivait quelque chose pendant votre absence. Et bien heureusement, le Rolling Bot est arrivé. Ce petit robot sphérique doté d'une caméra se déplace partout et se commande à distance depuis votre smartphone. Une innovation présentée hier par le fabricant sud-coréen LG au Congrès mondial de la téléphonie mobile à Barcelone. Alors, étant donné le faible nombre d'animaux domestiques qui se blessent à domicile en l'absence de leur maître, on peut douter de l'utilité d'un tel accessoire. Mais il faut bien renouveler la gamme du constructeur et le désir du consommateur dans un domaine qui finit par être saturé. Cet appétit pour l'innovation est particulièrement fort dans les filières à forte technologie, mais il n'épargne aucun secteur soumis à la concurrence, ce qui est de plus en plus la règle, d'ailleurs, dans une économie mondialisée. Innover ou disparaître, voilà l'alternative. Le problème, c'est que la finalité des innovations proposées ne semble pas toujours avoir été pensée. Il s'agit moins de répondre à une demande qu'à en créer de nouvelles. Par ailleurs, quand le discours sur le sujet finit par s'imposer comme méthode de management, on se demande quel est le but poursuivi. Alors, y a-t-il une tyrannie de l'innovation ? C'est notre sujet du jour. Ils seront trois invités ce soir pour en discuter. Delphine Manceau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la cofondatrice de l'Institut pour l'innovation et la compétitivité, qui est un think tank européen. Vous avez coécrit un rapport en 2009 pour une nouvelle vision de l'innovation qui avait été remis à la ministre de l'économie de l'époque, Christine Lagarde. Vous enseignez cette question à l'ESCP Europe et vous allez bientôt prendre la tête de l'EBS Paris, l'European Business School. Pour discuter avec vous, Michel Blé, bonsoir.
Bonsoir.
Historien et philosophe des sciences, directeur de recherche émérite au CNRS. Vous venez de publier aux éditions du CNRS justement « Penser ou cliquer ». Et puis en 2014, toujours chez le même éditeur, « L'existence au risque de l'innovation ». Puis notre troisième invité, c'est Jacques Le Winner. Bonsoir.
Bonsoir.
Physicien et inventeur, on vous présente en général comme le chercheur aux 1000 brevets. J'imagine que ça, je ne sais pas si ça vous plaît toujours ou si ça commence un peu à vous fatiguer.
Non, ça va. J'explique qu'en réalité, ce ne sont pas 1000 inventions, c'est 1000 brevets.
Voilà, ce qui est différent. Directeur scientifique honoraire de l'École supérieure de physique et de chimie industrielle Paris Tech, qui est une école d'ingénieurs. Vous êtes désormais le doyen de l'innovation à PSL, Paris Sciences Lettres, qui regroupe trois écoles d'ingénieurs trois grandes écoles, ouais. Mais il y en a peut-être d'autres. Et puis il y a l'ENS. L'ENS, c'est bien
grandes,
ça.
Toutes sont grandes et prestigieuses.
C'est bien.
Pas uniquement par la taille.
Vous êtes prudent. C'est avec vous que je voulais commencer la discussion, puisque comme à chaque fois qu'on utilise un terme et qu'on réfléchit à un terme qui est très largement utilisé, on se rend très vite compte qu'on en a une définition un petit peu floue. Pour vous, Jacques Le Winner, qu'est-ce que serait l'innovation ? Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que c'est une invention qui a réussi ?
Non, ça peut être une innovation technologique. Et très souvent, on a tendance à attribuer l'innovation à la technologie, mais ça peut être une innovation de service, une innovation d'usage. C'est la mise en œuvre de quelque chose qui, au fond, n'existait pas. Ce n'est pas une découverte scientifique. La découverte scientifique est à un autre niveau. C'est le passage, au fond, d'une idée qui peut être non industrielle, qui peut être de service, ou d'une technologie nouvelle au service d'applications qu'on n'avait pas envisagées.
En quoi est-ce que ça la différencie de l'invention ? Alors, mais peut-être n'y a-t-il pas de différence à vos yeux ?
Avec l'invention, il y a un passage de l'inconnu au connu. Vous voyez, au fond, si on vient de l'amont, quel est l'amont ? Bah, c'est l'homme est curieux depuis toujours, depuis qu'il existe. Il a cherché à comprendre le monde. Et donc, la recherche, alors on appelle ça aujourd'hui la recherche, mais dans l'Antiquité, c'était pareil. Les hommes voulaient comprendre leur monde. Pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi on ne voit pas loin à l'horizon, etc. Et petit à petit, ils ont construit des modèles. Ces modèles, soit étaient vérifiés par des expériences, soit ne l'étaient pas. Et ça a conduit à une progression de la connaissance qui s'est transmise. Donc il y a eu la recherche et il y a eu la transmission. Ça a conduit à des découvertes. Par exemple, je prends un exemple récent, le laser. Quand le laser a été découvert, c'était vraiment un instrument de laboratoire. c'était une découverte scientifique. Qui aurait pu imaginer que le laser allait trouver plein d'applications ? Et ces applications ont fait l'objet d'innovations. Ça a été les lecteurs de CD, ça a été les télécommunications. Et donc vous voyez qu'on est passé de la découverte scientifique à l'innovation sous forme d'usage de cette découverte.
Donc on pourrait presque dire, Delphine Manceau, que l'innovation, c'est une série d'améliorations d'une invention.
Alors l'innovation, je rejoins la définition qui vient d'être donnée, l'innovation, est, c'est une application, donc ça va être une application qui, dans des usages, des gens vont trouver une utilisation, que ça soit en termes de procédés de fabrication de produits ou d'usage au quotidien par des utilisateurs. Ce qui me paraît important, c'est que dans la notion d'innovation, au-delà de l'application, il y a une dimension économique. L'idée, c'est aussi d'impliquer une activité économique, des achats, des emplois, etc. On a parfois des inventions qui ne trouvent aucune application. Aujourd'hui, à peu près 36% des brevets européens sont inexploités.
Alors qu'une innovation a forcément trouvé une application dans le domaine économique ?
Elle a trouvé une application qui peut être dans le domaine non marchand, enfin, mais elle a trouvé une application et elle est utilisée par des gens.
Oui. Alors, je termine mon tour de table. Michel Blais, est-ce que pour l'instant, je dis pour l'instant parce que peut-être qu'après dans la discussion, ça va un petit peu diverger, mais vous partagez à peu près cette approche de ce qu'est l'innovation?
Je la partage à peu près, sauf sur un point. C'est que lorsqu'on fait une innovation, il faut jamais perdre l'essentiel qui est le point de vue économique de l'innovation. Et c'est là. Et l'innovation, c'est toujours du consommer plus et de la production plus si l'on se place à l'intérieur de l'entreprise. L'innovation, c'est aussi améliorer les systèmes de production, la normalisation des systèmes. Donc, ce qu'il faut voir dans l'innovation, je suis d'accord avec le rapport, ce n'est donc pas une invention, parce que l'innovation est toujours conditionnée par des objectifs de consommation, de production et d'organisation sociale.
Ça veut dire que pour vous, par Michel,
tous ces aspects-là, ils sont essentiels.
Ça veut dire que pour vous, Michel Blais, à partir du moment où on parle d'innovation, on parle de quelque chose qui n'a pas vocation à s'arrêter.
Il n'y a pas de raison. L'innovation est faite pour. On parle. C'est très simple. On parle souvent les problèmes économiques seront réglés par l'innovation, par la croissance. Jusqu'à nouvel ordre, l'innovation n'a produit aucune croissance.
Ah, est-ce que Delphine Manceau est d'accord avec ça sur le...
Non,
Jacques Le Winner, alors allez-y, tous les deux veulent répondre.
Soyons clairs, la croissance en France n'existe pas. Donc on ne peut pas dire que l'innovation en France a produit de la croissance.
Alors Jacques Le Winner.
Alors je réagis évidemment, moi je suis au contraire convaincu que le moteur de la croissance, c'est l'innovation. Et si je prends trois exemples, le Massachusetts, Stanford, la Californie au sens large et Israël. Trois pays, Massachusetts n'est pas un pays, mais quand même par rapport à Israël aussi, largement. Massachusetts, Californie, Israël, ce sont trois exemples concrets où l'innovation est poussée de manière extrêmement intensive et où les économies marchent bien, l'emploi est record, il y a très peu de chômage dans ces trois régions. Et donc, pour moi, l'innovation est un élément essentiel. Je prends un exemple concret. Vous êtes fabricant de poêles de cuisine. C'est un instrument. Vous avez un contenant en alu qui a été embouti. Vous avez un manche. Au fond, tous les fabricants sont en concurrence directe. Celui qui va vendre, celui qui a une bonne marque ou celui qui a la capacité de faire ça un peu moins cher que les autres. La concurrence est sur le prix. Donc c'est le pire. C'est la spirale infernale du prix. Réduction des investissements, réduction des coûts de recherche. Si vous apportez une innovation qui va apporter au consommateur un avantage, eh bien le consommateur va être prêt à payer plus pour acheter votre poêle. Vous allez pouvoir investir, développer de nouveaux produits de plus en plus performants. Et voilà un exemple concret où votre entreprise aurait périclité sans innovation. Avec de l'innovation, elle va se développer, exporter, vendre.
Donc, quitte à ce qu'il y ait une forte concurrence, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un environnement fortement concurrentiel, il vaut mieux que ça se porte, cette concurrence, cette bataille concurrentielle, sur l'innovation, plutôt que sur les prix ou sur les coûts de fabrication. Absolument. Delphine Manceau.
Oui, je pense qu'effectivement, il y a deux leviers pour une entreprise qui se situe en situation concurrentielle, pour essayer d'attirer des clients, de commercialiser ses produits ou ses services, il y a deux leviers. Soit effectivement, elle est moins chère que les autres et elle abaisse ses coûts de production, soit elle innove et elle crée quelque chose que ses clients préféreront, quitte à le payer plus cher. C'est aujourd'hui clairement la manière dont la concurrence se structure. D'ailleurs, quand on observe la plupart des marchés, on se rend compte que les clients soit se tournent vers le low cost le moins cher, soit se tournent vers des produits différents. Alors, ils peuvent être innovants au plan technologique, ils peuvent offrir des usages différents. Parfois, ils vont aussi changer leurs habitudes de consommation pour échanger leur manière de consommer. Si je prends l'exemple du transport, par exemple, aujourd'hui, bon, l'automobile est un secteur qui ne va pas très bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a des nouveaux modes, il y a des innovations qui apparaissent et qui modifient la manière dont les gens vont d'un point à un autre. Alors, ça peut être la voiture électrique, ça peut être la voiture partagée avec Blablacar. Donc, ça ne se traduit pas forcément par toujours plus d'achats, mais en tout cas, ce sont des nouvelles pratiques, des nouveaux usages qui vont permettre à certaines entreprises, comme celle que je viens de citer, d'émerger.
Mais ça peut permettre à certaines entreprises d'émerger ou en tout cas de continuer à exister. Mais en quoi est-ce que on a peut-être la preuve, et c'est en tout cas ce que conteste, me semble-t-il, Michel Blais, que l'innovation crée de la croissance? Parce que ça détruit aussi l'innovation. C'est-à-dire ça détruit ceux qui n'innovent pas.
Non. Je voudrais faire une petite remarque. Vous avez pris des exemples fort justes. Vous avez pris trois petites régions et des entreprises. Moi, je parlais d'un monde global. Ça, c'est facile. On peut prendre, si vous prenez l'Île-de-France, un coin de l'Île-de-France, l'innovation va produire effectivement de la croissance. Mais pour le reste, on n'en aura pas beaucoup. Donc il faut faire attention à ce que l'on dit. Si on sélectionne où il y a de la croissance, ce n'est pas une preuve très intéressante. La croissance mondiale, on ne peut pas dire actuellement qu'elle soit florissante. Or, c'est celle-là qui compte. D'autre part, il faut faire aussi il y a une chose à laquelle on ne pense jamais dans l'innovation, c'est que l'innovation a des conséquences. D'une part, elle a des conséquences. Pourquoi fait-on telle innovation alors qu'on pourrait résoudre le problème autrement?
Et donc, elle a des innovations. Par exemple, est-ce que vous pouvez juste nous donner un exemple, Michel Blais, pour qu'on comprenne?
Écoutez, il y a des innovations, par exemple, des innovations médicales pour soigner telle ou telle maladie. Des maladies dont les causes sont connues, ce sont des causes, par exemple, d'augmentation des pesticides. Ce serait peut-être intéressant de s'interroger sur les pesticides plutôt que de faire la fortune des entreprises pharmaceutiques avec des produits a priori inutiles. C'est de l'innovation inutile, celle-là, puisqu'elle soigne des maladies dont les causes sont parfaitement connues, puisqu'elles sont ailleurs, les causes. Donc, il faut faire attention aussi, il n'y a pas que des poils dans l'innovation, ça peut très bien marcher. En plus, il y a une chose, on utilise pour l'innovation énormément de produits rares. Donc, il faudra voir ce que ça veut dire. Si on considère l'innovation, il faut la prendre dans sa totalité. Pourquoi on l'a fait et quelles en sont ses conséquences?
Est-ce que vous êtes d'accord, Delphine Manceau et Jacques Le Winner, pour dire qu'en tout cas, effectivement, il existe certaines innovations qui sont inutiles parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment réfléchi à la finalité de ces innovations? Delphine Manceau.
Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, nous vivons une troisième révolution industrielle autour de la digitalisation qui génère un très grand nombre d'innovations. Dans ces innovations, il y a des gadgets, il y a des choses inutiles, il y a des choses qui parfois ont des effets négatifs, ça c'est indéniable, et puis il y en a d'autres qui vont avoir des effets très positifs. Je vais prendre un exemple qu'on a tous en tête, qui est l'exemple du téléphone mobile et des nombreuses applications autour du téléphone mobile. Alors, il y a plein de gadgets, hein. On peut jouer aux jeux vidéo, à des jeux sur son téléphone. Là, il n'y a pas forcément une utilité. Voilà, on peut compter
si,
ses pas.
C'est pas si mal.
Distrait. Bon, on peut compter ses pas. On peut considérer.
On pourra en discuter de cela.
On peut considérer que c'est un gadget. Mais à l'inverse, le téléphone mobile permet. Il y a des systèmes qui permettent aux diabétiques de mesurer leur glycémie et du coup d'avoir des traitements beaucoup plus efficaces qui suivent quasiment en temps réel leur taux de glycémie et qui donc les soignent beaucoup mieux que les systèmes antérieurs. De la même façon, en Afrique où la bancarisation est assez faible, aujourd'hui les transactions financières se font majoritairement par téléphone mobile. Et donc là, on a des exemples. L'exemple d'une innovation qui est le téléphone mobile et de ses applications, qui va aboutir à la fois à des gadgets très anecdotiques et peut-être inutiles, et en même temps à des innovations qui ont une fonction sociale et sociétale ou de santé tout à fait importante.
Jacques Lewiner, ensuite je vous rends la parole premier, Michel Blais.
Oui, alors d'abord un petit clin d'œil sur l'attaque contre les laboratoires. Les laboratoires pharmaceutiques travaillent énormément pour innover et on voit de nouvelles approches, par exemple, pour la découverte de nouveaux médicaments en utilisant des technologies qu'on appelle la microfluidique, par exemple, qui il y a 5 ans pratiquement n'existait pas et qui, dans les 5 ans qui viennent, vont révolutionner la manière dont les labos pharmaceutiques découvrent des médicaments, étudient la toxicologie, etc. Donc voilà un exemple d'innovation dont on ne sait pas encore si elle sera réussie ou pas, puisque par définition, quand on est à la frontière du connu et de l'inconnu, on ne sait pas si quand on va naviguer dans la mer inconnue, l'île qu'on voit au loin est un désert ou une île riche en de belles femmes, de beaux produits, tout ce qui va rendre cette île attrayante. On ne le sait pas, mais on tâtonne. C'est le principe de la recherche. Par définition, on tâtonne. Si on savait d'avance qu'on va vers quelque chose d'utile ou d'inutile, les choses seraient tellement plus faciles. Voyez, vous disiez, j'ai pris beaucoup de brevets. Dans ces brevets, malheureusement, tous ne sont pas bons.
La question de l'utilité ou de l'inutilité, elle est importante, Michel Blais, pour vous,
oui,
pour penser l'innovation.
Je pense qu'il faut poser le problème d'une certaine manière, parce que vous l'avez posé, madame, tout à fait correctement, si je puis dire, un objet, une innovation. De toute façon, elle a des aspects positifs et des aspects négatifs, quels qu'elles soient. Et il est illusoire de vouloir séparer les deux. Bon, ça c'est une chose. En revanche, ce qui n'est pas illusoire, c'est de réfléchir sur vers quelle société, vers quel rapport au monde induisent ces innovations. C'est-à-dire qu'on pourrait ne pas avoir envie de vivre dans ce monde-là. Ça, on peut. Ça change nos vies. Ça change nos rapports aux autres. Vous avez cité Blablacar. C'est une manière. Autrefois, on téléphonait à quelqu'un qui vous emmenait. C'était très simple. Maintenant, c'est Blablacar. Ça modifie le rapport collectif de la société. C'est-à-dire que ces innovations, qu'elles soient utiles ou pas utiles, elles ont un effet et un impact sur notre vie, notre rapport aux autres, notre rapport au temps, notre rapport à l'espace.
Mais attendez, Michel Blais, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Blablacar, vous n'êtes pas obligé d'avoir un téléphone portable.
Mais on n'est obligé rien. Je dis simplement que c'est à cela qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir à ce que cela modifie. Vous savez, dire que vous venez de dire, je ne suis pas obligé d'utiliser un téléphone portable. Vous croyez ?
Non, je ne le crois pas, cela dit.
Bon, alors je suis content.
Mais c'était uniquement pour vous apporter un peu de contradiction.
Oui, mais ça, c'est gentil. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un certain moment, alors c'est l'effet du marketing, vous ne pouvez pas échapper à l'utilisation de tel ou tel appareil, sauf à vous replier dans le fin fond de la Lozère, et je n'en suis pas encore sûr, parce que là, de toute façon, il y aura des capteurs qui sauront que vous y êtes. Donc c'est ça l'un des problèmes. C'est pas l'innovation en tant que telle qui a des avantages. Je suis d'accord avec vous, il y a des avantages du point de vue incontestable. Mais où va-t-on avec ces innovations ? Il faut se. J'ai toujours le sentiment que ceux qui innovent ne réfléchissent pas aux enjeux effectifs de leurs innovations.
Est-ce que quand vous enseignez justement, vous, les questions d'innovation, Delphine Manceau, dans vos cours, est-ce que la finalité de l'innovation, c'est quelque chose à laquelle vous réfléchissez ? Parce que moi, j'ai lu une interview, je me souviens plus pour quel journal, à laquelle vous aviez répondu, dans laquelle vous disiez notamment « Nous sommes dans des économies où l'offre crée la demande, car la demande n'existe plus en soi ». C'est-à-dire quand même, ça laisse entendre l'idée que l'innovation, elle est aussi là pour répondre à des besoins dont on n'avait pas conscience jusqu'à ce qu'on les crée.
Il n'existait pas.
Oui, je crois qu'on est dans une économie où effectivement l'offre crée la demande. En tout cas, dans nos économies développées, c'est très ancré localement ce que je suis en train de dire, parce qu'il y a des continents où c'est pas le cas.
Donc ça valide un peu ce que dit Michel Blais là.
C'est vrai que l'offre crée la demande. Quand nous avons tous été en contact avec les premières tablettes qui ont été lancées il y a quelques années, beaucoup de gens se sont dit, mais finalement, à quoi ça sert? Qu'est-ce que je peux faire avec cette tablette que je ne pourrais pas faire avec un ordinateur ou un téléphone mobile, ou peut-être avec un livre ou un journal? La réponse est effectivement, on ne peut pas penser la tablette en termes de fonctionnalité. Donc, ça ne répond pas à une fonctionnalité qui n'était pas remplie jusqu'à présent. Mais ça y répond autrement. Et puis, effectivement, je crois que la structuration des besoins et de la demande évolue. Aujourd'hui, comme le disait Michel Blais, le téléphone mobile est perçu comme quelque chose d'indispensable par une grande partie des individus. Mais à l'inverse, la voiture qui était considérée comme indispensable il y a 30 ans, quand un jeune avait 18 ans, son premier objectif, c'était de passer son permis. Maintenant, mes étudiants, ça leur paraît totalement secondaire de passer leur permis et de conduire une voiture. Donc, ce que je veux dire, c'est que effectivement, l'offre crée la demande et l'innovation, je ne pense pas qu'elle crée le besoin. Je pense qu'elle oriente les besoins fondamentaux vers certains produits et services plutôt que d'autres. Pour communiquer aujourd'hui, on considère qu'il faut un téléphone mobile. Autrefois, on avait d'autres moyens de communication, mais le besoin de communiquer avec autrui est le même. Et par ailleurs, les types de produits qui paraissent indispensables évoluent au cours du temps. Aujourd'hui, on consacre plus d'argent, enfin les ménages consacrent plus d'argent aux loisirs et aux moyens de communication et moins à d'autres choses, comme à l'habillement par exemple, par rapport à il y a 20 ans.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Y a-t-il une tyrannie de l'innovation? C'est la question que nous posons ce soir à Delphine Manceau, à Michel Blais et à Jacques Le Winner. Avant de vous redonner la parole, Jacques Le Winner, je voudrais vous faire entendre juste, c'est un petit extrait d'une chronique chez nos confrères d'Europe 1 qui était en janvier au moment de ce grand rendez-vous à Las Vegas où toute la French Tech était présente. Et parmi les innovations qui étaient proposées, une chaussette, mais attention, pas n'importe quelle chaussette, connectée.
Voici l'innovation qui ringardise les bracelets connectés. Ce sont les chaussettes connectées, effectivement. Alors, elles sont encore plus bienveillantes que les montres qui vous forcent à vous dépenser en comptant les calories. Parce que ces chaussettes-là, elles sont conçues pour éviter au maximum les blessures. Ces chaussettes sont tissées avec des fibres conductrices qui contiennent des capteurs qui analysent la position du pied quand il se pose sur le sol et qu'il se déroule. Donc, si vous atterrissez trop fort sur le talon, ce qui peut provoquer un traumatisme à la longue, ou si vous courez trop sur l'extérieur du pied, eh bien ces chaussettes le voient et vous alertent, car elles contiennent aussi un émetteur Bluetooth.
Voilà, alors Jacques Le Winner, dans ce cas précis, on aurait pu continuer un petit peu l'explication, mais est-ce que c'est pas la preuve que dans certains cas, évidemment, on peut pas généraliser à chaque fois, mais l'innovation est devenue une sorte de fin en soi, c'est-à-dire qu'voilà, on innove pour innover, mais sans vraiment se poser la question de l'utilité, et ça permet aussi d'être un argument marketing pour se faire remarquer.
Alors non, l'argument marketing, je le mettrai pas devant. Je pense que depuis toujours, l'homme, et quand je dis l'homme, je pense à l'homme et à la femme, bien sûr, est curieux. L'homme est curieux, il a envie de découvrir, il a envie de comprendre, et donc on ne l'empêchera pas, on n'arrivera pas à l'empêcher d'innover, parce que il est curieux. Il y a l'innovation que j'appelle incrémentale, c'est-à-dire on améliore un objet, on améliore un métal, on améliore... Et il y a l'innovation que j'appelle disruptive, on ne s'y attendait pas, a priori, et elle arrive. Je vous donne un exemple que tout le monde connaît. Pendant des siècles, on a utilisé pour s'éclairer les bougies. Et il y a eu, au cours de ces siècles, des innovations ininterrompues. Elles fumaient de moins en moins, elles consommaient de moins en moins de cire, elles faisaient une flamme de plus en plus éclairante. Eh bien, on aurait pu faire tout le travail qu'on voulait d'innovation incrémentale sur la bougie, on ne serait pas arrivé à l'ampoule. L'ampoule était une innovation disruptive. Elle prenait en compte, et vous allez voir comment l'esprit humain est malin, le forgeron qui forge, les gens avaient constaté que le métal très chaud émet de la lumière. Tout le monde le connaissait, ça. Tout le monde avait vu des forgerons. L'effet Joule, l'électricité commençait à être très connue, on savait qu'un courant électrique chauffe un métal. D'où l'idée de faire la lumière émise par le métal chaud du forgeron en le chauffant par l'électricité. L'ampoule à incandescence était née. l'ampoule à incandescence a évolué. Et on aurait pu la faire évoluer, ce qu'elle a fait d'ailleurs. Mais ça n'aurait jamais permis d'atteindre la lampe à décharge. La lampe à décharge qui consommait 8 fois moins.
Donc il y a une nécessité de rupture régulièrement.
Et donc il y a une nouvelle invention de rupture. Et ce processus des lampes à décharge, qui a apporté un progrès énorme, ça a réduit la consommation des villes en électricité. Une nouvelle innovation de rupture est arrivée avec les semi-conducteurs et les lampes à LED. Les lampes à LED qui consomment 10 fois moins qu'une lampe à incandescence. Donc vous voyez à la fois un processus d'innovation incrémentale, on améliore petit à petit la lampe, on améliore la décharge, on améliore les LED, et l'innovation de rupture où on a quelque chose qui n'existait pas.
Vous avez prononcé le mot de progrès, c'est un mot important quand on parle d'innovation, Michel Blé.
Oui, alors pour les LED, je reviendrai pas, mais enfin, il y a énormément de problèmes du point de vue des LED, y compris du point de vue de l'œil. Donc, c'est un vaste problème, les LED. C'est une innovation qui, à mon avis, n'apportera aucune innovation. Mais ça, c'est un autre problème, on va pas parler des LED. Je voudrais juste dire une chose par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure.
Vous adressez à Delphine Manceau, là.
À Delphine Manceau, oui. Et il faut faire une distinction radicale entre les besoins qui sont limités et les désirs qui sont infinis. Les besoins sont très limités, on n'a pas des besoins énormes, manger, boire, dormir, peut-être apprendre, je ne sais pas, peut-être aimer, voilà. Et puis ça se limite à peu près à cette... Les désirs, eux, par contre, sont infinis. Et si l'on se met dans la logique de vouloir satisfaire les désirs, alors ils seront infinis et il y aura besoin d'une infinité de matières, d'objets, pour les satisfaire.
Donc ils ne seront jamais satisfaits.
Ils seront jamais satisfaits, c'est ce qui fait marcher le commerce et l'innovation.
Est-ce que justement, dans le principe de l'innovation, il n'y a pas cette idée-là, c'est-à-dire de quelque chose qui est infini et donc d'un désir qui ne sera jamais satisfait?
C'est infini parce qu'on crée les désirs, on les a pas spontanément. Ce qu'on a spontanément, c'est les besoins. Les désirs, on les crée. Je vais donner un tout petit exemple. Je suis un homme d'innovation, évidemment. En 1993, c'est il y a très longtemps, j'ai publié un livre et j'avais associé à ce livre la possibilité d'aller sur un site internet. On était en 94, donc voyez à quel point. Et alors, c'est très amusant. Il y avait le site sur le livre. Voilà, vous pouvez pour jouer avec l'arc-en-ciel faire des gouttes d'eau plus ou moins grosses. Et comme on savait que peu de gens avaient à l'époque des ordinateurs et s'apprêtaient à jouer, nous avons mis des ordinateurs à côté des piles de livres sur l'histoire de l'arc-en-ciel. Eh bien, je peux vous dire que les livres se sont vendus à 3 ou 4 000 exemplaires, mais qu'aucune personne n'a ouvert un ordinateur qui était à côté de la pile pour regarder. Quelques années plus tard, on ne pouvait plus se passer de l'ordinateur. Je laisse ça à votre méditation sur les besoins et les désirs.
Besoins et les désirs, Jacques Le Winner.
Alors, moi, j'ai une vision peut-être optimiste, donc je ne partage pas ce sentiment. Je crois que quand on innove...
Il n'y a pas le risque, en tout cas, d'un épuisement des ressources, c'est-à-dire à force de vouloir innover.
L'exemple que je donnais sur les LED, alors, petit à petit, on va améliorer, je crois que c'était à juste titre. Au début, les longueurs d'onde émises étaient très monochromatiques. Maintenant, on arrive à étaler on s'approche de la lumière du soleil, qui est celle dans laquelle notre corps a évolué au cours des millions d'années, donc qui correspond à notre optimum. Donc les LED, bientôt, auront à peu près le spectre du soleil. Elles consomment 10 fois moins d'électricité. Ce qui veut dire qu'on réalise un progrès pour la collectivité qui est considérable. Donc, j'ai peut-être par définition, je suis chercheur dans l'âme, une vision optimiste du monde. Je pense que la science, l'inventivité des gens, puisqu'il n'y a pas, comme on l'a vu, que des innovations scientifiques ou techniques, il y a des innovations d'usage. Je pense que cette curiosité naturelle des êtres humains. Alors, est-ce que les animaux ont ça? Je ne sais pas. On cite parfois le corbeau, qui, pour extraire de la nourriture d'une poubelle publique, tord un morceau de métal pour faire un crochet qui lui permet d'aller dedans. Il y a eu des expériences en Nouvelle-Zélande où on a observé des oiseaux qui n'arrivaient pas à casser des noix pour en extraire la partie mangeable, et qui avait compris que en les posant sur la chaussée, les voitures statistiquement allaient les écraser, et donc ils allaient pouvoir aller récupérer ça. C'est de l'innovation, et de l'innovation bénéfique puisque ça va permettre à l'oiseau qui peut-être n'avait pas de nourriture en ville de trouver de la nourriture.
Une courte réaction, Michel Blé.
Oui, une petite, deux petites réactions d'ailleurs, l'une pour, surtout pour Monsieur Levinaire d'ailleurs. Le LED permet des économies d'énergie, mais peut-être faut-il faire le bilan global parce qu'il a fallu construire aussi les LED.
Donc le bilan carbone n'est peut-être pas
le,
si...
Le bilan carbone et énergie, il faut aussi de l'énergie pour fabriquer ça.
Et
la deuxième petite réaction, vous faites référence souvent à l'histoire, à la longue histoire, et l'homme a toujours été, inventeur. Ce que je vous accorde. Mais je vous accorde pas exactement la même chose. Parce que si l'on s'en tient aux anciens, je dirais, ils ont développé la technique. Ils ont développé des appareillages extrêmement compliqués, des choses extrêmement compliquées. La seule différence, c'est que leur vie n'était pas centrée sur la technique. Ce sont des artefacts pour rendre la vie plus utile. Notre vie à nous est économiquement centrée sur cela, ce qui est complètement différent.
Alors on parle beaucoup justement ce soir de technique et de technologie, mais l'innovation, ça ne s'applique pas seulement à ces domaines-là, Delphine Manceau. Il y a d'ailleurs aussi tout un discours aujourd'hui qui est fait sur l'innovation, notamment dans le monde du travail, où on voit bien, par exemple, quand il y a un changement de direction, il y a forcément des changements d'organisation, les nouveaux considérant que ceux d'avant faisaient pas assez bien, et donc pour améliorer la productivité, par exemple, il faut modifier l'organisation. Est-ce que c'est pas un discours qui finit aussi par fragiliser certains, qui peut être utilisé pour dire, du passé, faisons table rase, les anciens, on les met de côté. On voit bien que dans le monde du travail, par exemple, le nombre de pré-retraités est de plus en plus important, pour valoriser une idée de la jeunesse qui serait beaucoup plus créative, beaucoup plus innovante.
Oui, alors effectivement, je pense que le mot innovation et la nouveauté constituent des valeurs très prisées dans notre société et dans les entreprises. Après, ça n'est pas parce qu'on en parle qu'on l'a fait. Le fait que dans des entreprises, quelqu'un, une nouvelle équipe dirigeante arrive et annonce des innovations, c'est pour marquer son empreinte. C'est pas forcément toujours pour changer radicalement les choses par rapport à ce qu'ont fait les prédécesseurs. Par rapport à la jeunesse, je voulais quand même réagir parce que quand même on est un pays où la jeunesse connaît des difficultés économiques inouïes, où elle est radicalement touchée par le chômage. Donc je suis pas sûre que cette culture qui met en avant l'innovation se traduise réellement dans les faits par le fait qu'on ait tendance à beaucoup aider les jeunes générations et à les mettre beaucoup en avant dans les organisations et dans les entreprises.
Mais, à contrario, la culture de l'innovation pourrait favoriser justement l'émergence de la jeunesse, ou en tout cas une forme de mobilité sociale.
En tout cas, ce qu'on observe au sein des jeunes générations, c'est un goût très fort pour l'entrepreneuriat et pour l'innovation, justement, parce que peut-être ils ne trouvent pas toujours leur place dans les grandes entreprises et dans les grandes organisations. Moi, je suis très frappée par les générations d'étudiants que je côtoie aujourd'hui qui ont un très fort goût pour la création d'entreprises, la création d'associations. Et puis, ce que j'observe aussi, c'est que l'innovation telle qu'elle est mise en avant aujourd'hui par les jeunes, c'est une innovation très orientée vers la dimension sociale, ce qu'on appelle l'innovation sociale, et aussi très orientée vers le respect de l'environnement. Je crois qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'à force d'innover, on épuisait les ressources de la planète. Et aujourd'hui, très clairement, le respect de l'environnement et le développement durable constituent des moteurs très forts pour innover, pour fabriquer des produits moins consommateurs en énergie et en matières premières. C'est tout ce qu'on appelle l'éco-conception, et aussi l'économie du partage pour effectivement mieux utiliser les biens qui sont fabriqués. Donc, par rapport à ce que disait Michel Blé tout à l'heure, je pense qu'on évolue vers une économie qui est davantage centrée sur l'usage et le partage et moins sur la possession d'une multitude de produits et de biens.
Vous avez évoqué l'innovation sociale, Delphine Manceau. On constate aussi dans ce domaine qu'il y a certaines associations, par exemple sur les domaines de la solidarité, qui peuvent se créer en étant persuadées qu'elles vont faire beaucoup mieux que ce qui existe, et parfois d'ailleurs en entravant le travail d'associations beaucoup plus anciennes. C'est-à-dire que le discours sur l'innovation, il peut aussi être un discours d'exclusion quand même, Jacques Lewiner.
Non, alors là j'ai un exemple concret, puisque comme vous l'avez dit, on est en train de construire cette université de recherche qui s'appelle Paris Sciences Lettres, PSL Research University à Paris, qui regroupe des établissements très prestigieux, et où on a l'une des trois composantes de notre projet, c'est l'innovation et la création d'entreprises. Et donc on aurait pu penser que des établissements anciens, de grand prestige, l'École normale, le Collège de France, l'Observatoire, seraient très méfiants vis-à-vis de l'innovation et de l'application industrielle des découvertes. Et on découvre qu'en réalité, quand on enlève un peu cette croûte qui a eu tendance à s'accumuler, alors que la recherche y est de qualité mondiale au premier plan, il y avait quand même une espèce de protection vis-à-vis du monde économique et de l'activité, je dirais, industrielle. Quand on gratte ça, on découvre que les jeunes sont tout à fait partants. Et on a créé, par exemple, à PSL, ce qu'on appelle le programme Pépite, où les étudiants des jeunes peuvent postuler. Ils ont un accès à un Fab Lab, à un lieu d'accueil où ils peuvent venir à l'heure qu'ils veulent, de jour, de nuit, bricoler. Et ça marche du tonnerre. Et
mais est-ce que ça ne valide pas le discours qui consiste à dire que finalement la recherche, elle doit avoir des applications concrètes?
Non.
Sinon,
non,
c'est non, pas
non.
la peine de chercher.
Non, absolument pas. Quand je fais un amphi à l'École normale pour expliquer ce qu'est la valorisation, des chercheurs me demandent, mais alors monsieur, est-ce que ça veut dire qu'on doit vendre notre cerveau à l'industrie? Et je leur réponds absolument pas. Votre mission, c'est d'être de bons chercheurs. Donc soyez des bons chercheurs, fondamentaux, théoriciens, ce qui vous attire, et là où vous êtes bon, personne ne vous fera la moindre critique. Mais si en plus de votre bonne recherche, vous faites des retombées qui enrichissent l'économie nationale et qui créent des emplois, alors peut-être que non seulement vous avez fait de la bonne recherche, mais vous avez rendu un peu à la collectivité ce qu'elle a fait pour vous, en vous payant un labo, en vous payant un salaire et autres.
Michel Blais.
Oui, je ferai une petite remarque. Il suffit de regarder le budget alloué actuellement à la recherche que l'on peut appeler vraiment fondamentale. Il est en diminution simplement parce que tout fonctionne par appel à projet. Et en ce sens, les jeunes chercheurs ont déjà depuis longtemps vendu leur cerveau à l'entreprise, puisqu'ils fonctionnent à travers les entreprises. Donc le problème, là, est beaucoup plus grave. Et je pense que la vie du jeune chercheur actuellement est une vie impossible, absolument impossible. Il doit aller de projet en projet, de post-doc en post-doc pendant des années, simplement pour, disons, avoir la possibilité de gagner sa vie. Un coup en Allemagne, un coup en France, un coup en Espagne. C'est désastreux. Nous allons perdre tous les bons cerveaux. Mais comme c'est pas mieux aux États-Unis, il n'y a pas à s'inquiéter. Le seul inquiétude qu'on peut avoir, c'est qu'on n'aura plus de chercheurs.
Et ça, ce serait lié pour vous à ce qu'on a appelé ce soir une forme de tyrannie de l'innovation?
C'est pas une forme. Oui, ça fait partie de ça. C'est-à-dire que l'innovation est toujours associée à de l'économique. C'est essentiel. Et en plus, ça a vocation à remplacer, à se substituer aux solutions politiques. On a un problème politique, on met de l'innovation, on crée un objet technique. Et ça, c'est extrêmement mauvais. Il faut revenir à la pensée politique et revenir à la vie sociale. C'est ça l'essentiel, c'est pas autre chose. La recherche se discute pas avec des appels d'offres et des choses comme ça. Elle se discute entre chercheurs qui montent un projet sur 20 ans, 15 ans. C'est ça la recherche, ça n'a toujours été que ça.
Merci beaucoup. Michel Blais, Jacques Lewiner et Delphine Manceau d'avoir participé à cette discussion. On manque de temps, j'avais encore une question à vous poser, mais je vous la poserai en dehors. Je voulais savoir, pour une émission comme Du Grain à Moudre, qui en est déjà à sa 10e saison, qui n'a pas beaucoup changé sur le fond, comment est-ce qu'on peut innover, si vous voulez bien me faire profiter de votre expertise, pour voir comment est-ce qu'on peut continuer à vivre encore quelques belles saisons dans le futur. Merci en tout cas à tous les trois pour cette discussion que vous pouvez poursuivre sur notre site franceculture.fr, la page Du Grain à Moudre. Émission que vous pouvez réécouter indéfiniment et que vous pouvez télécharger pendant un an. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Céline Leclerc, Cyril Baer, Mélanie Chalandon, Hugo Florent, un merci spécial à Fanny Richer. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan. Demain, EDF Areva, que sont nos fleurons devenus? Ce sera la question à 18h20.